Journal des Sciences.
Et pour commencer, premier sujet de ce Journal des Sciences, une étude parue dans Nature Microbiology lundi alerte sur la propagation d'une bactérie multirésistante dans les hôpitaux du monde entier, Antoine.
Oui, ce staphylocoque blanc, staphylocoque epidermidis, se trouve environ sur 100% de la population humaine, et plus précisément sur notre peau. Alors on le rappelle, un staphylocoque est capable de coloniser un individu sans systématiquement induire d'infection, mais il peut de temps en temps provoquer une infection plus ou moins grave. Les patients qui sont les plus susceptibles d'être gravement infectés par ce staphylocoque blanc sont ceux qui présentent une immunodéficience. Alors l'étude australienne parue en début de semaine révèle que ces staphylocoques epidermidis sont présents dans une très grande quantité d'hôpitaux dans le monde et sont de plus en plus résistants aux antibiotiques. Le professeur Frédéric Laurent a contribué à cette étude. Il est professeur de microbiologie à la faculté de pharmacie de Lyon et chercheur de l'équipe pathogénèse des infections à staphylocoque du Centre international de recherche en infectiologie. Il nous explique pourquoi il faut prendre les résultats de cette étude au sérieux, mais aussi pourquoi il ne faut pas tout de suite crier au fléau mondial.
L'étude de nos amis australiens, ça a été d'abord d'étudier leurs souches au niveau d'un hôpital et au niveau de leur région. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils avaient des staphylocoques epidermidis qui étaient responsables d'infections, pas chez tous les patients, mais plutôt des patients fragiles. Et ils ont montré que ces staphylocoques epidermidis étaient relativement résistants aux antibiotiques. La deuxième chose qu'ils ont montré, c'est que cette résistance aux antibiotiques était ce qu'on appelle une multirésistance. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des bactéries résistantes à une famille d'antibiotiques ou à deux familles d'antibiotiques, là on avait une résistance à de nombreuses familles d'antibiotiques, notamment toute la famille des pénicillines, qui sont extrêmement importantes pour traiter les infections staphylococciques. La particularité des souches qu'ils ont montrées en Australie, c'est que ces souches-là, elles étaient résistantes à un antibiotique, la rifampicine, et que le mécanisme qui permettait la résistance à cette rifampicine, en fait, il permettait aussi la résistance aux antibiotiques de la famille des glycoptides, de la vancomycine. Donc en fait, un même mécanisme entraîne une résistance à plusieurs familles d'antibiotiques. Bien sûr, c'est un problème, l'article est très intéressant, il ne faut pas non plus être alarmiste. Ce qui est particulier là, c'est que c'est des souches qui sont en Australie, on a exactement les mêmes en France, dans d'autres pays d'Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Ce sont ce qu'on appelle des clones, c'est-à-dire une souche bactérienne particulière qui se met à parcourir des grandes distances, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Là, l'étude n'explique pas pourquoi on a cette dissémination au sens large, mais c'est sa capacité à devenir ce qu'on appelle, non pas épidémique, mais là, endémique, et à parcourir de grandes distances. Ça, c'est un problème. Pour ce qui est du traitement, il faut là aussi être raisonnable. On a un niveau, bien sûr, de multirésistance aux antibiotiques. On n'est pas, pour la plupart des cas, dans des impasses thérapeutiques. Il reste des alternatives. Donc, ces souches-là, on en a en France. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas mesuré exactement l'étendue de la fréquence de ces souches en France et s'ils étaient très très fréquemment retrouvés. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours pour savoir quel est l'état, ce qu'on appelle de l'épidémiologie de ces clones-là, de ces clones de Staphylococcus epidermidis en France.
Voilà, la question c'est bien sûr celle de l'antibiorésistance, question cruciale à laquelle nous avions consacré une émission entière et qui est l'un des points clés de cette étude, Antoine.
Oui, et cette multirésistance des staphylocoques aux antibiotiques, elle est finalement pas si étonnante que ça. Selon l'Institut Pasteur, qui s'appuie sur les chiffres des services hospitaliers, entre 20 et 50% des souches de staphylocoques sont aujourd'hui antibiorésistantes. Alors le professeur Jean-Luc Ménardi, qui est chef de l'unité de microbiologie clinique à l'hôpital européen Georges Pompidou et spécialiste de l'antibiorésistance, nous explique les pistes de recherche envisagée pour contourner cette résistance, mais tout d'abord, il nous donne les explications de l'apparition d'une antibiorésistance chez une bactérie.
L'explication, en fait, c'est plurifactoriel. Et parmi ces facteurs, il y en a qui sont propres aux bactéries, et puis il y en a qui sont propres au comportement que nous avons eu au cours du temps, je pense essentiellement à une consommation excessive d'antibiotiques. Alors, parmi les facteurs bactériens, les bactéries ont au sein de leur génome la capacité de faire ce qu'on appelle des mutations, et ces mutations engendrent des résistances aux antibiotiques, ou alors elles ont la capacité également d'acquérir du matériel génétique étranger, qui sont portés essentiellement par des plasmides ou des transposons. Et ceci est tout à fait important puisque ces éléments génétiques qui confèrent la résistance peuvent passer d'espèce bactérienne en espèce bactérienne. En fait, ces bactéries s'échangent du matériel génétique qui porte des gènes de résistance.
Quand on décèle une antibiorésistance chez un staphylocoque, qu'est-ce qui est mis en place pour contourner cette antibiorésistance et trouver une autre piste de soins?
Il y a deux mesures qui sont prises. Premièrement, ce sont ce qu'on appelle les mesures préventives par les soignants, qui est essentiellement le lavage des mains, pour éviter qu'on transmette d'un patient à un autre patient les bactéries, parce que c'est une, en ce qui concerne les staphylocoques, pour les staphylocoques dorés, c'est ce qu'on appelle des infections manuportées, c'est-à-dire portées par les mains. Le deuxième axe, bien entendu, c'est un axe de recherche pour avoir de nouveaux antibiotiques. Il faut quand même savoir qu'à ce jour, pour tout ce qui a été développement de vaccins dirigés directement contre les bactéries, je ne parle pas de prévention vaccinale avec les anticorps, etc., qu'on a pu développer pour tout ce qui est virus, à ce jour, pour l'instant, cette piste de vaccination contre les staphylocoques en particulier n'a pas abouti, mais ça fait dans une logique de trouver aussi des alternatives aux antibiotiques, et il y a un certain nombre de recherches qui se font sur des pistes pour justement ne plus utiliser d'antibiotiques, du moins moins en utiliser avec des thérapeutiques alternatives.
Voilà, et on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission @lamethodefc, de l'émission complète que nous avions consacrée aux problèmes liés à l'antibiorésistance. En bref, maintenant, une étude alerte sur les risques liés à la prise au long cours du traitement hormonal Androcure.
Cette étude a été menée par l'assurance maladie et le service de neurologie de l'hôpital Lariboisière. Alors, un petit rappel, l'acétate de cyprotérone, mieux connu sous le nom d'Androcure, est la plupart du temps prescrit aux femmes comme contraceptif, contraceptif, mais aussi pour lutter contre l'acné ou encore l'excès de pilosité chez les femmes et les personnes transsexuelles. Selon l'étude, donc, l'Androcure multiplie par 7 les risques de développer un méningiome, c'est-à-dire une tumeur cérébrale, chez des personnes traitées à forte dose pendant plus de 6 mois, et au-delà d'une prise d'Androcure pendant plus de 5 ans, ce risque est multiplié par 20. Alors si les méningiomes sont la plupart du temps bénins, ceux qui se développent en lien avec la prise à haute dose d'Androcure, en se multipliant et en grossissant, peuvent provoquer des déficits fonctionnels importants et des symptômes sévères comme des troubles visuels. L'étude révèle par ailleurs que dès l'arrêt du traitement d'Androcure, les méningiomes régressent. Des recommandations sont donc attendues d'ici la fin de l'année 2018. En attendant, l'ANSM appelle les prescripteurs à la prudence.
La faculté de médecine de Lille décide de suspendre son diplôme d'homéopathie.
Cette décision a été rendue publique sur leur compte Twitter la semaine dernière. La faculté lilloise précise qu'elle statuera, selon l'avis de la Haute Autorité de Santé attendue d'ici à février, sur l'efficacité de l'homéopathie et le bien fondé de son remboursement.
En bref, toujours, on part dans l'espace où la tache rouge de Jupiter pourrait bien révéler un de ses secrets.
Il s'agit d'une étude du Goddard Space Flight Center de la NASA parue en début de semaine dans The Astronomical Journal, qui révèle que des traces d'eau sont présentes dans cet anticyclone géant de l'atmosphère de Jupiter. Cette observation vient confirmer une théorie énoncée de longue date, les satellites de Jupiter étant principalement composés de glace d'eau et la planète géante jouant localement le rôle d'un énorme puits de gravité. C'est grâce au télescope WM Keck et au NASA Infrared Telescope Facility installé à Hawaï que les scientifiques ont pu faire cette découverte en décortiquant les nuages à plusieurs altitudes de la célèbre tache rouge. D'autres observations sont à venir, notamment grâce à la sonde Juno.
Deuxième sujet de la semaine, toujours dans l'espace, un vieux rêve d'ascenseur spatial serait peut-être, Antoine, sur le point de se réaliser.
Oui, ce rêve, il date du 19e siècle où déjà à l'époque, on pensait tendre un câble entre la Terre et l'espace. Mardi 11 septembre, une équipe de chercheurs japonais de l'université de Shinzuoka enverra pour la première fois de l'histoire en orbite une maquette d'ascenseur spatial. Il s'agit en réalité de deux nanosatellites de 10 cm de côté, reliés par un câble en acier de 10 mètres. Un boîtier motorisé circulera le long du câble entre les deux satellites, tandis que les caméras de ces derniers suivront leur progression. Cette première expérience va permettre de mettre à l'épreuve une idée qui n'est pas sans de grosses contraintes, mais ce sont des contraintes relatives aux avantages qu'on pourrait en retirer, comme nous le rappelle Jérôme Pérez, professeur d'astrophysique théorique à l'ENSTA Paris Tech.
Il faut un câble qui est très long, il faut deux points fixes. Une orbite géostationnaire, c'est une orbite sur laquelle un point qui se trouverait sur cette orbite resterait au-dessus du même point sur la Terre. Donc là, on a deux points fixes. Et ensuite, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes, puisque d'abord, il faut mettre un objet qui est suffisamment lourd, parce que sinon, quand on va accrocher ce câble qui va avoir une masse assez importante quand même, ça va tirer sur ce point, et l'objet qui se trouve sur cette orbite, il va perdre cette orbite. Typiquement, l'idée qui a été reproduite dans les scénarios de science-fiction, c'est d'aller chercher un astéroïde, ou de construire une station spatiale à cet endroit, dont la masse serait suffisante pour pas être perturbée par le poids du câble. Et là, à partir de là, on pourrait déployer ce câble et l'amarrer sur Terre pour le faire tenir.
Quels seraient les avantages d'un tel système par rapport à une propulsion avec une fusée ?
Alors, les avantages sont tout simplement colossaux. comme vous le savez, actuellement, pour mettre une fusée en orbite ou un satellite en orbite, ben, il faut sortir du champ de gravitation de la Terre. Et donc, il faut communiquer à la fusée qui va porter le satellite une vitesse qui soit supérieure à la vitesse de libération de la Terre, c'est-à-dire 11 km par seconde. Et donc, en fait, l'essentiel de l'énergie qui est déployée par la fusée est utilisé pour s'extraire du champ de gravitation de la Terre. C'est ça qui coûte le plus cher et c'est ça qui est le plus dangereux. Hein. Ça peut exploser à tout moment, comme on sait très bien. Si vous disposez d'un dispositif tel que l'ascenseur spatial, vous n'avez plus ce genre de problème, puisque avec, vous mettez des panneaux solaires, vous mettez deux roues d'environ 5 mètres de diamètre qui roulent le long du câble, motorisées par ce petit moteur solaire. Et là, vous roulez le long du câble et vous arrivez en moins d'une semaine en orbite géostationnaire sans avoir dépensé pratiquement aucune énergie, puisque vous avez utilisé l'énergie du soleil pour vous propulser le long du câble. Techniquement, ça paraît possible, même s'il y a des choses qui sont compliquées, hein. On pourrait se mobiliser tous pour faire ça à l'échelle d'une cinquantaine d'années. Ça ne me paraît pas complètement illusoire, quoi.
En bref, toujours, une équipe de chercheurs annonce avoir mis au point un nouveau produit aussi puissant que la morphine, mais sans ses effets secondaires.
On rappelle que la dépendance aux opioïdes est la cause de très nombreux décès chaque année. En 2016, ce sont 60 000 Américains qui sont morts d'une overdose de morphine. Alors, une équipe américano-japonaise vient d'annoncer la mise au point d'un nouveau produit baptisé AT-121, capable des mêmes effets analgésiques que la morphine, mais sans induire d'effets secondaires indésirés. Les premiers tests ont été réalisés avec succès sur des primates non humains. Les essais cliniques sont à prévoir chez l'humain sans qu'une efficacité similaire puisse encore être garantie.
Et puis après la démission de Nicolas Hulot la semaine dernière, un mouvement qui est né sur Facebook a pris de l'ampleur et appelle à une grande marche pour le climat demain.
Cette marche pour le climat attend déjà plus de 16 000 personnes à Paris avant un départ prévu à 14h de l'hôtel de ville. De nombreuses autres marches pour le climat se tiendront également en France demain, à Bordeaux, Rouen, Lyon, Brive, Nantes, Orléans, Toulouse et j'en passe. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de la méthode si jamais vous voulez aller vous dégourdir les jambes.
Et pour finir par notre rubrique de science improbable. Vous attendiez pas à entendre la Macarena dans la méthode scientifique. Tout est possible puisque la musique ne fait pas qu'adoucir les mœurs. Antoine, elle peut aussi sauver des vies.
Oui, et le tube de l'été 1993, la Macarena par Los del Rio, lui peut sauver des vies. C'est ce qu'avancent des chercheurs de l'université de Barcelone qui affirment que cette chanson a le rythme parfait pour pratiquer un massage cardiaque entre 100 et 120 pressions par minute. Pour prouver ça, les chercheurs ont recruté 164 étudiants en médecine comme cobayes et les ont séparés en trois groupes, tous chargés de faire des massages cardiaque sur des mannequins pendant 2 minutes. Les résultats ont été les meilleurs chez ceux qui utilisaient un métronome réglé sur 103 coups par minute. Ceux à qui était conseillé de suivre mentalement le tempo de la Macarena ont été 74% à tenir la cadence. Enfin, ceux auxquels les chercheurs ont fait pratiquer le massage sans instruction ni repère ont été seulement 24% à suivre le bon tempo. Voilà. Est-ce que vous savez le nom de qui chantait la Macarena?
Non, je suis désolé.
Vous l'avez oublié, c'est Los del Rio.
Je vous remercie de me le rappeler. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez partir en musique pour enchaîner sur votre week-end festif.
Merci beaucoup.
En Espagne, merci
à
beaucoup.
À la semaine prochaine,
Antoine.